Et il faut savoir en quoi nous croyons. L'un des défauts du peuple de Dieu, c'est de ne pas connaître la Bible. Si nous ne connaissons pas la Bible, nous pouvons être emportés, comme dit Jacques, à tout vent de doctrine. Et il y a une doctrine, il y a des doctrines qui actuellement font du mal au peuple de Dieu. Certaines qu'on appelle le calvinisme, j'en dirai pas plus, que tu crois ou pas, de toute façon, Dieu avait décidé que toi tu sois sauvé, Dieu avait décidé que toi tu sois perdu. Qu'est-ce que c'est ? Autre chose également, la perte du salut. On nous enseigne qu'on peut perdre son salut. Quand on est enfant de Dieu, on y est pour l'éternité, même si nous sommes de mauvais sujets. Heureusement que le Seigneur lui est fidèle, même si nous sommes infidèles, n'est-ce pas ? Et puis, donc, le troisième sujet, qui est très important et qui est en train de ravager l'Église de Jésus-Christ, ce sont les faux dons du Saint-Esprit. Donc, hier, on a pu voir ensemble cette Église de Corinthe. Ce n'était pas par hasard. Pourquoi pas Éphèse ? Pourquoi pas Thessalonique ? Pourquoi pas Rome ? L'Église de Corinthe, à cause de ses positions géographiques, était une église de mélange à tout niveau. Au niveau ethnique, ça c'est pas un problème, sauf que ces ethnies apportaient leur Dieu avec eux et ne voulaient surtout pas les laisser. C'est pour ça qu'il y avait à Corinthe un nombre incalculable ou presque de sectes, de groupes. Et quand Paul va intervenir pour annoncer l'évangile, il va donc être mis en face de ce problème terrible, de ceux qui croient en Mithra, d'autres qui croient en Isis et Osiris, d'autres qui croient au dieu de l'amour, puisqu'il y avait un temple avec un millier de prostituées auxquelles on rendait des cultes. Et on comprend très bien que dans cette église, rien n'allait bien. Ils se croyaient au-dessus des autres, et Paul les remet à leur place. Vous êtes orgueilleux, vous êtes charnels, vous êtes égoïstes, etc. Ils se faisaient des procès entre eux, devant la gendarmerie de l'époque. Enfin bref, rien n'allait bien. C'était une plaie vive. Et Paul est obligé donc d'intervenir et de dire « ça ne va pas du tout ». Et si vous lisez cet épître, vous allez dire « merci Seigneur de ce que je suis à Argenteuil ». Parce qu'une église comme ça, bon, Nanterre, c'est pas mal non plus. Hein. Bon. Parce qu'une église comme ça, je pars en courant. Et pourtant, Paul ne dit pas de partir. Priez pour que l'église change. Et si, à Argenteuil, il y a quelques menus problèmes, priez pour que le Seigneur parle au cœur de chacun de ceux qui ont besoin de remettre peut-être des choses en place. Donc, on a vu hier cette église dans un état lamentable. Lamentable. Le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il pouvait faire. Parce que nous sommes responsables de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, lui, il est disponible. Mais c'est en fonction de notre désir qu'il pourra ou pas intervenir. Jamais il y a une prière demandant « Saint-Esprit, viens nous aider ». Jamais. Le Saint-Esprit est dans le cœur de tout enfant de Dieu. Mais on peut l'attrister. Le pauvre Saint-Esprit. Excusez-moi le terme, le pauvre, dans le sens que qu'est-ce qu'on fait de lui ? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ? Ce que la Bible nous dit. Ou est-ce que le Saint-Esprit en moi est tellement à l'étroit, que c'est plus lui qui guide ma vie ? Qu'est-ce qui guide ma vie ? C'est moi. Et lui, il se tait. C'est un personnage discret. Tellement discret que parmi la Trinité, c'est celui qu'on connaît le moins. Et comme on le connaît peu, c'est sur celui qu'on a le plus de fausses doctrines. Des fausses doctrines sur Dieu, il n'y en a pas beaucoup, que je sache. Des fausses doctrines sur le Christ, il y en a quelques-unes, concernant sa divinité. Nous croyons que le Christ est parfaitement Dieu, n'en déplaise aux témoins de Jéhovah, qui ont fait de lui un ange. Le Christ est parfaitement Dieu. Et pour le Saint-Esprit, alors que sa personne et son œuvre sont énormes, et on l'a dit tout à l'heure, le Christ dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, je vous enverrai un consolateur, et il vous apprendra toutes choses. Quelqu'un a dit avec respect, le Saint-Esprit, c'est le couteau suisse de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un couteau suisse ? C'est pas péjoratif, c'est pas méchant. Hein. C'est un couteau dans lequel il y a plein de lames. Il y a des ciseaux, il y a de tout. Il y a bien sûr des couteaux, bien sûr, des tournevis, enfin bref. Et le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il agit tellement d'une manière, tout en restant discret, que c'est extraordinaire de voir tous les domaines dans lesquels il intervient. Et les chrétiens le connaissent très mal. Très mal. Bien sûr, il est discret, il ne parle pas de lui. Jamais il ne parle de lui. Donc c'est à nous de le découvrir au travers des passages de la Bible. Et ça, c'est merveilleux. Vous aimez fouiller votre Bible? Est-ce que vous êtes des chercheurs? Des découvreurs de pierres précieuses? Moi, je me régale depuis pas mal d'années. Et j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça. Et là, tout récemment, et si le Seigneur permettrait, un jour, je vous en parlerai, les prophéties de Dieu. Mais pas forcément les gens, aujourd'hui, quand ils parlent prophétie, c'est prophétie à venir. Oui, mais il y a tellement de prophéties qui se sont réalisées et qui manifestent la puissance de Dieu, son omniscience, sa toute-puissance. C'est extraordinaire. Bon, bref. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Les témoins de Jéhovah, encore eux, mais d'autres aussi sectes disent c'est un fluide, c'est une émanation. Non, le Saint-Esprit est une personne et pas simplement une influence ou une force. Il est une personne au sens où il est doué de personnalité comme vous. Notre Dieu aussi a une personnalité, le Fils aussi et le Saint-Esprit également. Et il y a des passages qui montrent clairement que le Saint-Esprit est une personne capable de décision et de sentiment. Par exemple, il pense. Il pense. C'est logique, oui, mais il pense. L'Esprit est au secours de notre faiblesse, dans l'Épître aux Romains, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais c'est lui qui nous guide. Et j'ai toujours été étonné par des gens qui, à ce coup, ont une prière incroyable. On passait des films, à l'époque, dans une salle, et on avait un vieux projecteur 16 mm, vous savez, le truc à l'ancienne. Et ma fille prie en disant, Seigneur, elle est toute petite, Seigneur, fais que si ça tombe en panne, ça remarche. Bon, d'accord, ok, entendu. On passe le film et ça tombe en panne. Et je dis au frère qui était chargé de la manutention, etc., t'inquiète pas, ça va repartir. Ma fille l'a dit. On a prié, Seigneur, tu l'as dit, fais que ça reparte. Et ça repartit. Je crois que oui, le Saint-Esprit peut, s'il le veut, donner à quelqu'un une pensée, une prière, un sujet de prière, parce que c'est écrit. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Donc, le Saint-Esprit pense. Il a la faculté de comprendre, connaître. On a ça dans 1 Corinthiens 2, justement. Il a cette capacité d'intelligence. Saint-Esprit a une intelligence. Il a une volonté. Il agit selon un plan. Encore dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Le Saint-Esprit ne travaille pas à l'aveuglette. Il a un plan. Le plan que Père, Fils ont mis ensemble en avant. Il éprouve des sentiments, j'ai dit tout à l'heure. Il peut avoir de la tristesse. Il est dit, ces versets sont importants, dans Romains 15, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attristez le Saint-Esprit. Oh, je pense que souvent, notre comportement fait que non seulement le Saint-Esprit est affligé, mais aussi le Fils, également le Père. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire la joie de Dieu? Est-ce que vous le savez, ça? Nous pouvons faire la joie de Dieu. Dieu nous donne la joie, c'est un des fruits de l'Esprit, on en parlera tout à l'heure. Mais je peux aussi donner de la joie à mon Dieu. Ça, c'est dans Néhémie, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui a été pour moi, qui soit un peu un combattant. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand ils auront, alors ça, on l'a étudié dans l'Église, quand ils ont rebâti le temple, Néhémie, Esdras, ces versets sont fantastiques. Le peuple était uni, comme une église qui doit être unie. Et ça construisait. Et il y avait des ennemis. La truelle d'une main, l'épée de l'autre. Comme souvent c'est notre cas. La joie de l'Éternel sera votre force. Savoir que lui me donne de la joie. Beaucoup de joie. Mais que je peux, moi, lui donner de la joie au Saint-Esprit et au Fils. Quel encouragement. La joie de l'Éternel sera notre force. Donc, il peut communiquer aux hommes, il peut parler aux hommes. On va prendre un passage parce que quand même, Hébreux 3, 7... Tout ça, c'est à chaque fois, bien sûr, il y a beaucoup de versets, mais comme le temps d'avant, je fais ça en plusieurs réunions, comme là, je ne veux pas trop prendre de temps. Hébreux 3, 7, je vais lire juste le passage. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un appel au salut. C'est le Saint-Esprit. Donc, il est capable de nous parler. Il est capable d'entretenir chez nous un désir. Et puis aussi, on l'a dit dans Apocalypse, ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle. Il parle non seulement à l'église, mais il parle à chacun de nos cœurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À chacun de nos cœurs. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle souvent? Alors n'attendez pas un SMS, hein. Mais est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce que c'est lui qui conduit vos vies? Quelle place lui laissez-vous? La vie chrétienne dépend pratiquement entièrement du fait que le Saint-Esprit puisse agir en nous ou pas. Et il est celui qui dirige les vies, par exemple dans Actes 15, 28, il dit « Il a paru bon au Saint-Esprit de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. » Donc vous voyez, c'est celui qui guide totalement la personne et l'Église. Le Saint-Esprit est Dieu. Totalement Dieu. Il a une personnalité, mais il est aussi totalement Dieu, comme le Père et le Fils. Il est l'une des personnes de la Trinité. Alors, les témoins de Jéhovah, encore eux. Alors, les témoins de Jéhovah, j'en parle souvent parce que c'est un danger. Si vous êtes contacté par les témoins de Jéhovah, ne l'ouvrez pas votre porte. Avec eux entre une autre puissance spirituelle qui n'est pas celle de Dieu. Et malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui, en se laissant entraîner dans leur divagation spirituelle, eh bien, se sont éloignés réellement de Dieu. Jamais je les invite chez moi, jamais je ne discute avec eux sur le stand, pour pas qu'on dise, tiens, Robert parle avec des témoins de Jéhovah. Par contre, quand j'ai l'occasion, je parle avec eux. Et c'est toujours la même chose. Et là, c'était très bien avec Ésaïe 9. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Qui sait, eux-mêmes disent, c'est Jésus. Il sera appelé Père éternel, dans leur traduction truquée du monde nouveau. Priez pour eux, parce que ce sont des gens qui sont intéressés par Dieu. Il ne faut pas les mettre à la poubelle. Malheureusement, ils ont été pris par l'ennemi et par la tour de garde, et ils ne peuvent plus réfléchir, ils sont comme programmés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec eux, mais c'est terrible, terrible. Et souvent, je leur dis, vous n'avez pas cette grâce que le Père accorde à ceux qui le veulent, eh bien de comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est totalement Dieu. Hein, rappelez-vous, quand Christ a demandé à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?»« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais ce n'est pas tes capacités qui ont trouvé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et je leur dis toujours, je souhaite pour vous qu'un jour vous soyez suffisamment réceptifs, non pas à la tour de garde, mais à Dieu, pour comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a la même nature que lui. Attention. Donc le Saint-Esprit est parfaitement Dieu. Il est associé au Père et au Fils, placés au même rang. Mon cher frère, Matthieu 3, 16, s'il te plaît. Dès que Jésus eut été baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici des cieux s'ouvrir, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui, et lui dire, je pense que là il manque quelque chose, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est pas grave. La Trinité est parfaitement réunie, ah merci mon frère, et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On voit à ce moment-là la Trinité entière. C'est le premier passage qui nous parle de la Trinité. Le Père qui parle, le Fils qui reçoit et le Saint-Esprit qui est présent. Deuxième passage, Matthieu 28, 19, que vous connaissez et que nous allons mettre en application. Matthieu 28, 19. Allez, les gens d'Argenteuil. Faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, une deuxième fois où il y a bien cette unité absolue. Troisième passage, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, ça c'est un peu pour cet après-midi, mais c'est pas grave. Mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Encore une fois, le Saint-Esprit est mis à égalité avec le Père et avec le Fils. Deuxième et dernier passage, plutôt quatrième passage, 2 Corinthiens 13, 13, que j'aime aussi beaucoup. J'aime tout. Que la grâce, c'est la deuxième Corinthiens, donc c'est la fin de cette épître, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit ou l'enseignement du Saint-Esprit soit avec vous. Voilà. Encore une fois, il y aurait d'autres passages, mais ces quatre-là, notez-les, ils sont vraiment clairs, nets et précis. Donc le Saint-Esprit est totalement Dieu et il est dans un passage totalement identifié à Dieu. Ce passage, c'est lorsque Ananias et Saphira vont mentir. Ils vont être condamnés, ils vont mourir tous les deux. Et on a dans ce passage, vous avez menti à Dieu, et dans un autre endroit, vous avez menti au Saint-Esprit. Donc ça, c'est dans Actes, chapitre 5, versets 3 et 4. Il possède tous les attributs divins, le Saint-Esprit. Il est éternel, l'Esprit éternel. Il est omniscient, il sait toutes choses. Il est omniprésent. Et dans chacun de vous, dans toutes les églises en même temps. Il est omnipotent également, il est saint et il est rempli d'amour. Voilà donc les personnalités du Saint-Esprit. Il faut que ce soit clair pour vous. Que vous ayez un respect envers le Saint-Esprit comme vous avez envers le Père et envers le Fils. Ce n'est pas une formule magique non plus. Quelquefois, j'entends ça. C'est un peu magique, le Saint-Esprit, on ne connaît pas. Et non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, comme le Père, comme le Fils. Alors, le Saint-Esprit a une œuvre extraordinaire. Il travaille les cœurs. Donc, vous savez que c'est dans l'évangile de Jean que le Christ dit aux disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Car quand je m'en serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, consolateur, paraclète, qui vous rappellera toutes choses, qui vous enseignera toutes choses et qui sera toujours avec vous. Donc voilà, le Seigneur est ressuscité et le Saint-Esprit peut intervenir. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit intervient, mais d'une manière épisodique, pas régulière, mais à partir de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit sera là pour toujours, alors qu'avant c'était momentané, si je puis dire, dans des moments particuliers. Donc, le Saint-Esprit a un travail énorme auprès des païens. Auprès des païens, il dit dans Jean chapitre 16, je veux lire, Jean chapitre 16, verset 8, quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 1, la justice, 2, et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, donc le péché, si je puis dire avec un P majuscule, c'est pas de faire des choses mauvaises, d'abord, c'est de ne pas croire. D'ailleurs, quand on croit, je pense qu'on fait moins de choses mauvaises. Mais souvent, quand on parle de péché, nous, dans notre tête, surtout quand on a une éducation catholique, comme c'est la mienne, c'est de faire des choses mauvaises. Péché mortel, péché véniel. Non, non, non. Le péché, avec un P majuscule, je dis et je répète, c'est de ne pas croire en Christ. D'ailleurs, il dit, vous êtes déjà jugé si vous ne croyez pas en moi. Deux, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, le péché de l'homme, c'est de ne pas croire au Fils. Et ça, on verra peut-être sur l'occasion, ça peut aller tellement loin de ne pas croire au Fils que ça appelle jusqu'à ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pardonné ni sur terre ni dans les cieux. Mais c'est vraiment exceptionnel, et si ça vous intéresse, je vous en dirai un mot cet après-midi, puisqu'en après-midi, on pourra peut-être avoir quelques questions-réponses. Et je sais que ce sont des choses qui, quelquefois, hantent les chrétiens, en disant, est-ce que je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit ? Le fait de dire, est-ce que je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit, ça montre que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que votre conscience est encore touchable. Donc, il le convainc le péché. D'accord. Deux, la justice. La justice, parce qu'il est dit, parce que je vais au Père. Autrement dit, ça veut dire que le Christ a accompli toute la justice de Dieu. Il a accompli toute la justice de Dieu. Et puisqu'il va au Père, c'est donc qu'il ressuscite. Et s'il ressuscite, ça veut dire que le Père a accepté totalement l'œuvre du Christ à la croix. C'est ça la justice. Et le jugement, parce que le prince de ce monde, Satan, est déjà jugé. Donc le Saint-Esprit a un travail fantastique auprès des païens. Un, il est convaincu de péché s'il ne croit pas au Fils de Dieu. Deux, il est convaincu de la justice de Dieu si, puisque le Christ a accompli cette justice, et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Christ a accompli pour nous la justice. Et que nous y avons cru. Et le jugement, parce que donc Satan est condamné. Ça, c'est la première chose que l'Esprit va faire avant. Ensuite, il a un rôle. Une fois que les personnes sont convaincues de ces choses, son rôle également, c'est la nouvelle naissance. Qu'on appelle également le baptême du Saint-Esprit. Alors là, il y a une confusion énorme. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. Et je ne quitterai pas cette salle. Si ce n'est pas clair dans vos têtes, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez cet après-midi pendant le repas. Enfin, on se débrouille. Le premier passage qui nous parle de ça, qui est très très mal interprété, c'est dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, si je ne me trompe pas, Jean le baptiseur nous parle du Christ. Vous savez que Jean le baptiseur, donc, baptisait les gens dans le Jourdain, mais ce n'était pas le baptême chrétien. Le baptême de Jean le baptiseur, c'était un baptême de d'acceptation du péché. Voilà. Donc, les gens venaient à ce baptême et donc acceptaient le verdict de Dieu, comme quoi ils étaient pécheurs. Et donc, ils manifestaient ça par un baptême. Un plongeon, une immersion, le mot baptême, immersion dans l'eau. Mais ce n'était pas le baptême que le Christ allait instituer après. D'ailleurs, il dit lui-même, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oula. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Certains chrétiens, malheureusement, avant de lire que veut dire baptiser le Saint-Esprit, voit et de feu, et prie Seigneur, baptise-nous de feu. Heureusement que le Seigneur n'écoute pas toutes les prières. Parce que ça veut dire quoi être baptisé de feu? Lisez la suite. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé, ça ce sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Autrement dit, le baptême de feu, c'est le jugement de l'Apocalypse, quand tous ceux qui n'auront pas cru seront mis pour l'éternité dans un feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que c'est clair? Ne priez pas pour avoir ce baptême de feu comme on l'entend dans certaines assemblées. Alors le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Romains, on explique ça d'une manière assez clair, et je vous propose d'aller donc dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Pour moi, c'est l'œuvre fondamentale du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, quels sont ceux parmi vous qui ont été baptisés d'eau, après avoir cru? Voilà, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Vous l'avez fait tout seul? Où on vous a aidé physiquement parlant? Il y avait des gens qui vous étaient, qui étaient là ou pas? Vous avez dit, tiens, un jour, vous vous baladez au bord de la Seine, tiens, ben aujourd'hui, je vais me baptiser. Plouf. Non, c'est pas ça. Il y avait des personnes, le pasteur et peut-être des adjoints, qui vous ont délicatement pris, qui vous ont trempé dans l'eau, un certain temps, pas trop, et qui vous ont relevé. D'accord? C'est ça? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est celui qui fait ça. C'est lui qui nous plonge dans la mort de Christ. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement, de justice, on l'a vu tout à l'heure. Et si nous croyons ces choses, alors il va nous prendre et il va nous plonger dans la mort de Christ. Romains 6. Ignorez-vous, dit Paul aux Romains, que nous qui avons été immergés en Jésus-Christ, plongés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie ou dans la puissance d'une vie nouvelle. Le christianisme ne s'arrête pas simplement au pardon des péchés. Phase 1. Mais si l'arbre qui donne des mauvais fruits n'est pas coupé et remplacé par un bon arbre, il portera toujours des mauvais fruits. Moi, je suis d'origine catholique. Je croyais effectivement que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je le croyais. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Hein. J'avais 10 ans. Et je servais la messe et je disais ça. Puis un jour, j'ai compris. Oui, je crois, comme beaucoup de catholiques, que Jésus-Christ est celui qui a porté leur péché à la croix. Mais ce n'est pas individuel. C'est la différence avec nous, les évangéliques. Nous croyons que c'est personnel. Et ce mot « le monde », on peut remplacer par notre prénom, d'accord? Ça, c'est la phase 1. Le Christ à la croix a porté mes péchés, mais ce n'est pas tout. Il a porté Robert Grenet. Il l'a mis à mort avec le Christ et il l'a ressuscité avec le Christ. Et une fois que j'ai compris ça et admis ça, alors je suis bon pour le baptême d'eau, qui n'est que la manifestation visible d'un acte invisible que le Saint-Esprit a fait en moi. Ça, c'est le christianisme. Et Paul rappelle ça aux Romains, parce qu'on l'oublie. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, en étant conformes à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il y a 2000 ans, le Seigneur a emmené avec lui Robert Grenet dans la mort. Et comme Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et les passages où il nous est dit que nous sommes ressuscités sont nombreux. Paul nous dit, si vous êtes ressuscités, attachez-vous aux choses d'en haut. Nous sommes même assis dans les lieux célestes. Et je disais hier, je pense, mais c'est personnel, que Dieu ne voit plus Robert Grenet, la vieille nature, elle est morte, elle est finie, terminée. Ce qu'il voit en moi, ce qu'il voit en vous, bien-aimés, c'est Christ. Une vie nouvelle. Et si vous saviez à quel point il aime son fils, vous seriez étonné de savoir à quel point il vous aime. Et c'est pour ça que Paul nous dit ce cri merveilleux, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et tout ce que nous sommes, bien-aimés, si nous sommes des chrétiens, tout ce que nous sommes, c'est l'œuvre du Christ qui nous a entraînés dans sa mort et qui est ressuscité avec nous. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, j'en parlais hier, c'est tellement important la résurrection, parce que Christ n'est pas ressuscité, je suis encore dans mon péché. L'évangile, c'est merci Seigneur, je te loue pour ta parole. Si je n'avais pas ta parole, je serais un ignorant, un ignare. Mais j'aime tellement ta parole. Bon, je la médite pas jour et nuit comme dans le psaume 119, parce que la nuit je dors, mais lui, la nuit, il me parle. Je le sais, le matin, je me réveille, demander à ma femme, « Ah, oh, cette nuit, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. » En pleine nuit, je me lève, j'ai des... Le Seigneur me parle, oui, c'est pas extraordinaire. Hein. Il me parle, et... j'ai des pensées, tiens, faut que je note ça. Alors si je note pas, je ne me rappelle plus le lendemain. Alors je me lève, comme un zombie, j'écris, très mal, le lendemain je reviens, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne me rappelle plus. Illisible. Le Seigneur en fait autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que votre sommeil soit nourri du Seigneur. On fait tous des rêves, hein. Je ne crois pas aux rêves prémonitoires, ça n'a rien à voir. Mais je pense que le Seigneur veut nous parler même pendant la nuit, tranquillement, comme ça. Donc, le christianisme, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, c'est cette mort avec Christ. Est-ce que vous êtes mort avec Christ? Vous êtes mort avec Christ? Christ est-il ressuscité? Donc vous êtes ressuscité avec lui. Romains 6, lisez, relisez ce passage. Afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne vivions plus ce temps esclaves du péché. Voilà, donc, rendez-vous, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Phase 1, le Seigneur a pardonné mes péchés. Phase 2, le Seigneur m'a entraîné dans la mort de Christ et m'a ressuscité avec le Christ. À la croix, il y a 2000 ans, le Christ a porté avec lui des millions de personnes. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tiens, ça te fait penser à l'Ancien Testament. Quand le Juif qui avait péché mettait ses mains sur l'agneau qu'il allait faire mourir, il y avait deux choses. Un, l'animal prenait sur lui le péché. Deux, identifié. Le salaire du péché, c'est la mort. Il meurt, je mérite de mourir. Pas simplement le péché, la vie. Je meurs avec. Ça, c'était une leçon de choses que le Seigneur donnait. Est-ce que c'est bien compris, cette pensée? C'est fondamental. Quand nous annonçons l'Évangile, tôt ou tard, il faut bien parler, pendant du baptême, bien entendu, je confiance en mes bien-aimés, n'oubliez jamais cette dimension de Romains 6. Parce que si je ne suis pas mort avec Christ, ma vie personnelle, elle est explosive. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Ça, c'est l'histoire ancienne. Enfin, l'histoire ancienne, c'est quand on scellait un document. Quand on scellait un document, on mettait un peu de cire sur l'endroit à la fin de... Et on mettait son sceau. Ça voulait dire, c'est à moi. Et comme il y avait le sceau du roi ou du quiconque, on disait ça... Ça vient du roi. Et ça appartient au roi. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, ça veut dire que il y a la marque sur nous. Alors il y aura une autre marque plus tard, mais ça on n'en parle pas. Nous avons la marque, nous appartenons à Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour la vie éternelle. Il identifie par ce sceau l'appartenance à Dieu qui nous donne la sécurité de la vie éternelle. La sécurité de la vie éternelle. La sécurité de la vie éternelle. Dans Romains 8, verset 16, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il arrive que des chrétiens qui n'ont pas, qui ont un problème, se posent la question, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Souvent, moi, un autre pasteur responsable, mais oui, t'inquiète pas, t'es enfant de Dieu. Erreur. Erreur, et j'ai fait cette erreur souvent. J'ai même souvent fait l'erreur de dire à des gens, maintenant vous êtes un enfant de Dieu. Le seul qui a le droit de dire à quelqu'un qu'il est enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est dit clairement que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est tellement rassurant. Qu'un frère me le dise, pasteur me le dise, je veux bien le croire. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui me le dit, c'est une autre dimension. Romains 8, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et un chrétien qui connaît les vicissitudes, combien souvent c'est merveilleux d'avoir en soi. On peut avoir des moments de doute. Avoir un moment de doute, ce n'est pas négatif, mes amis. Parce que le doute peut au contraire augmenter notre foi. Ou alors nous faire basculer dans le mauvais côté. Hein. Mais souvent le doute, ah Seigneur, merci. On va penser à quelque chose, à un verset. Seigneur aime tellement ses enfants. Des fois, nos enfants doutent que nous sommes les parents. Ma fille, ma cadette, a appris qu'une des copines avait été adoptée. L'enfant adopté. Et à un moment, elle a eu peur qu'elle aussi soit adoptée. Il a fallu que nous la rassurions comme quoi elle était bien notre enfant, papa et maman. Donc le doute peut venir. Mais le Saint-Esprit va nous consoler, va nous encourager à le croire. Ah, ça, c'est donc l'un de ses travaux. Il témoigne à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Romains 8, 16, pour ceux qui veulent noter la référence. Il donne une conviction intérieure et non une vision, une voix surnaturelle. Donc ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Alors après la conversion, c'est pas fini. Le Saint-Esprit continue à travailler en nous. Il rend le croyant, alors il habite en permanence dans le croyant, donc vous savez que nous sommes tous des temples. Vous avez déjà vu un temple bipédique? Ben regardez-moi. Ben vous pouvez vous lever et vous regarder les uns les autres. Tiens, j'ai jamais vu un temple avec deux pieds. Ben oui. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pas simplement l'habitation, non, le temple. Avec tout ce que ça représente, mais bon, ça serait un peu compliqué, mais c'est très important, le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et puis donc, ça c'est 1 Corinthiens 6, 19, si je ne me trompe pas, il rend le croyant sensible à l'amour que Dieu a pour lui. Et le rend capable d'aimer. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui va révéler les vérités spirituelles, qui va expliquer la parole de Dieu. Ce que je connais ne peut être que ce que le Saint-Esprit a bien voulu me montrer. Ce n'est pas l'intelligence personnelle qui peut me faire comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas un cerveau de quelques centimètres cubes qui va comprendre l'infini de Dieu. Mais le Saint-Esprit est heureux de nous faire comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que l'un de ses jobs, si je puis dire, c'est de glorifier le Christ. Il ne parle pas de lui, il dit. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier le Christ. Afin que nous comprenions qu'il est, que nous l'aimions davantage. Voilà le rôle du Saint-Esprit. L'un de ses rôles, parce que vous avez vu, il y en a beaucoup. Il transforme, il sanctifie le chrétien. 2 Corinthiens 3,18, Romains 8, 13. Enfin, il y a tellement de passages qui nous montrent que nous devons être soumis au Saint-Esprit, etc., etc. Et puis, un passage important, bah oui, j'allais l'oublier, Galates. Ça, c'est merveilleux, c'est les fruits de l'Esprit en nous. Si nous sommes sages, obéissants, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire en nous? Galates 2, 20. C'est pas ça. C'est pas grave. C'est un autre passage, mais c'est un verset tellement important que ça vaut le coup d'être lu. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez encore, on parlait tout à l'heure, mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, voilà. Galates 2,20. Un verset en béton. Et je vis maintenant dans la chair, oui, encore. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Quand j'ai lu la première fois ce verset, je me suis dit, oh là là, Paul, au bout de sa vie, il peut dire ça. Mais non, c'est au début de la vie chrétienne qu'on peut dire ça. Est-ce que vous avez été crucifié avec Christ? Et est-ce que si aujourd'hui vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous? Si ce n'est pas le cas, demandez au Seigneur de vous rendre par son esprit capable de ça. Alors, les fruits d'esprit, c'est où, mes bien-aimés? Je suis perdu. Galates 5. Je me suis trompé de deux chapitres. Alors, Galates 5, verset 25. Quoi? Bravo, il y en a qui suivent. Alors, voilà. Le prof. Mais les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit. Un fruit, ça... Comment? Oui, le fruit de l'esprit. Heureusement que... Un fruit, ce qui est remarquable, c'est que ça pousse tout seul. Ça se forme tout seul, mais il faut la sève, etc. Enfin, c'est toute une chimie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. etc. Et, encore une fois, ce qui est derrière, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés. La chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Normalement, peu à peu, alors il y a des fruits à croissance rapide, comme les cerises. Fruits à noyaux qui, en quelques semaines, sont matures. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long. Vous avez les poires. Les poires, les fleurs sont en même temps que les cerisiers. Mais les fruits, on les mange qu'en octobre. Donc, il y a des fruits à croissance rapide et d'autres à croissance lente. Le principal, c'est que le fruit se forme. Bon, c'est pas pour autant de dire, bon, ben Robert nous a dit qu'on avait le temps. Non. Bien-aimé, qu'en chacun de vous, les fruits d'esprit se forment. Une église, tout à l'heure j'entendais une église pas parfaite. Il a raison, mon frère, en disant que l'église n'est pas parfaite. Parce qu'elle est composée de gens qui ne le sont pas. Le jour où les gens seront parfaits, l'église sera parfaite. Mais là, ce n'est pas sur terre. Je peux vous dire que quand on lit les sept ou sept églises, les lettres aux sept églises, il n'y en a que deux qui passent au travers, et en réalité, il n'y en a qu'une qui n'a aucun reproche. Mais l'église deviendra parfaite au fur et à mesure que les personnes qui la composent deviendront parfaites. Alors ne dites pas, mon église n'est pas parfaite parce que c'est à cause de tel, ou à cause de ceci, ou à cause de cela, non. D'abord, vous, commencez à vouloir être parfait, priez pour que votre cher frère ou chère soeur soit parfait, et là, il y aura une croissance spirituelle de l'église. Que le Saint-Esprit pourra faire. Si vous avez un problème avec un frère ou une sœur, avant d'aller lui parler, parlez-en d'abord au Seigneur. Ralph Chalice m'a appris ça. Quel frère? Tu vois, Seigneur, avec tel frère, ça ne marche pas du tout. Il est pénible, si tu savais. Et telle sœur, elle est bavarde comme une pie. Elle raconte que des bêtises. Ça ne va pas du tout. Ça me fait penser, vous savez, aux publicains. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous savez lequel, entre le publicain et lui, a été justifié aux yeux de Dieu? Bon, vous avez connaissé la leçon? Pas la peine que je vous la rappelle. Donc, ensuite, il transforme, sanctifie, on a vu les fruits de l'esprit et tout, et c'est lui qui rend le croyant capable d'être témoin dans le monde, et qui donne la puissance à son témoignage. J'aime témoigner. J'aime. Pourquoi? Parce que je suis fier de mon Dieu. Je suis très fier de mon Dieu. Et vous êtes fier de votre Dieu? Est-ce que quand vous parlez de Dieu... Ou est-ce que je suis chrétien, je suis heureux de l'être? Si vous avez la joie du chrétien, l'un des fruits de l'esprit. Une petite anecdote, vraie, terrible. Une sœur, bien aimée, était d'une tristesse, peut-être qu'elle avait des raisons pour l'être, mais la joie du chrétien doit passer par-dessus tous nos petits problèmes. Paul, en prison à Colosse, dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, en prison !» Et cette sœur était d'une tristesse infinie. Vraiment, très gentille. Vraiment très gentille sœur, mais tristounette comme ça. Un jour, elle était dans le métro, dans le RER. Quelqu'un s'approche d'elle, lui tend un traité, lui dit « Mademoiselle, je vous sens tellement triste, vous avez besoin du Seigneur. » Paf ! Le coup de pied aux fesses numéro 1. Elle nous l'a dit. Elle s'en est pas vantée, mais elle nous l'a dit. Elle m'a dit « Ça m'a fait un coup terrible. Un coup terrible. Je ne veux pas me faire voler ma joie. L'ennemi est un voleur de joie. Il fera tout ce qu'il peut pour que j'oublie la joie que j'ai d'être chrétien. La joie du salut. Quand vous avez un gros problème, qu'est-ce que vous faites? Ben comme moi, vous grognez. Vous n'êtes pas content, nana. Mais à un moment, arrête. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Et que ta vie sur terre, elle a un temps. Mais là-haut, c'est pour l'éternité. La joie du salut, la joie d'être aimé de Dieu, la joie d'être aimé du Seigneur, la joie d'être guidé par le Saint-Esprit, la joie d'avoir des frères et sœurs, nous en liberté ici. La joie, la joie, la joie. Je ne veux pas me faire voler ma joie. Et trop souvent, à cause des vicissitudes de la vie, nous perdons notre joie. Il y a des exemples que je connais de personnes qui ont des gros problèmes et qui ont prié, Seigneur, que l'ennemi ne ravisse pas ma joie. La joie du chrétien, c'est communicatif. Si vous annoncez l'évangile, je vous donne une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Un chrétien triste est un triste chrétien. Ok ? La joie. Alors, ce n'est pas la joie du monde. On a vu que c'était un fruit d'esprit. Bon, ça, c'est encore une chose. Oui, l'esprit fait, nous rappelle toutes ces choses et ça nous donne le cœur en joie. Et je suis un chrétien joyeux. Est-ce que vous êtes des chrétiens joyeux ? Est-ce que vous êtes donné envie ? Bon, ben ça va. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces capacités de pouvoir être heureux. Donc, les fruits de l'Esprit, j'en ai parlé. Galates 5, 22, j'ai retrouvé mes notes, j'étais un peu perdu. L'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, mon don numéro un. La bienveillance, la fidélité, la foi, la fidélité. On parlait tout à l'heure des tâches. Dans toute la assemblée, c'est pareil. On dit oui, je le ferai, oui. Bah, tu parles, le pasteur vient de me le demander, donc je ne peux pas dire non. Sinon, la foudre du ciel va me tomber dessus, comme les Jean et Jacques, hein, vous vous rappelez. Et puis bon, le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui le reste vient du sept malin. Si vous vous engagez, vous savez, bon, engagé depuis 50 ans avec un chien, mais quand on est engagé aussi pour faire autre chose, c'est pareil aux yeux de Dieu. Hein. Dieu, lui, il ne fait pas des choses en... Tu t'engages. Quand oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et on est actuellement dans une époque où même chez les chrétiens, alors dans le monde, on parlait tout à l'heure de notre frère nous disait des promesses qu'on peut nous tenir, qui ne peuvent pas tenir, ils le savent, puis c'est pire. Mais nous, ça ne va pas être comme ça. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Parce que si je tergiverse, il y a quelqu'un derrière qui est en train de me pousser vraiment d'une certaine manière. Donc, les dons de l'esprit. L'esprit accorde donc aux croyants des dons spirituels. Ces dons spirituels sont des qualifications surnaturelles en vue du service dans le cadre du corps de Christ et pour sa croissance. Aucun don que le Seigneur peut donner. Tout à l'heure, j'étais heureux pour qu'on encourageait ceux qui font de la musique. À l'époque de David, les musiciens étaient des gens très respectés. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont pratiquement légué tous les psaumes. Asaph et sa famille. Ils étaient honorés. Les portiers aussi. Les portiers, c'était quoi ? C'était des gens qui n'étaient pas simplement la porte, mais simplement protéger l'église, enfin l'église, le temple à l'époque, avec des lances, des épées. C'était aussi une tâche importante. Protection. L'église a besoin d'être protégée. Vous êtes responsable de la protection de l'église. L'ennemi essaiera toujours d'envoyer dans les églises des personnes pour détruire. C'est Paul le dit aux Éphésiens, il y aura des loups parmi vous, des faux docteurs. Alors, il ne faut pas, quand la personne arrive, sauter dessus. Mais c'est à vous qui avez du discernement de dire, là, ça ne va pas. Nous, on avait un frère, qui est auprès du Seigneur maintenant, c'était, entre guillemets, notre chien de garde. Et moi, je n'avais pas vu le coup. Et un jour, il vient me voir, il me dit, dis donc, Robert, ce couple-là, ils sont venus pour construire ou pour détruire ? Et il avait raison. Et il avait raison, c'était des gens qui voulaient détruire, en prenant autorité, enfin bon, bref. Donc en mettant le souple, la zizanie, le mot spirituel, la zizanie dans l'Église. Vous êtes responsables, vous êtes des portiers. Vous êtes tous des portiers. Et bien entendu, il y a toujours un responsable des portiers, ben ce sont ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Veillez sur votre Église, veillez sur votre Église. Il y a des personnes qui viendront pour vous faire du mal. Paul le dit aux Éphésiens, et combien ça devait être dur pour Paul de le dire à ceux qu'il aimait, à cette église d'Éphèse. Donc les dons sont toujours donnés pour la croissance de l'église. Jamais pour se faire du bien. Jamais. Pour prendre une position d'orgueil. Pour prendre une position supérieure aux autres. Moi je fais ça dans l'église. Moi, je fais ça. Combien nous avons tendance à hiérarchiser nous. Ça c'est très important. Et qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? La personne qui fait fidèlement le ménage ou la personne qui apporte les messages? Nous, on hiérarchise. Mais Dieu, lui, voit la fidélité. Et la fidélité, c'est la qualité numéro un du chrétien. Bon et fidèle serviteur, fidèle, la fidélité, etc. Donc, tout ce qu'il donne, c'est pour ça. Et donc, c'est lui qui sanctifie cela. Alors, les dons de l'esprit. On a vu, c'est le Seigneur qui donne, c'est pas moi qui me donne des responsabilités, c'est lui qui me donne selon sa volonté des capacités. Et chacun d'entre nous a reçu de la part du Seigneur des dons différents. Musique, portier, vous avez compris dans quel sens je disais portier, hein, etc., etc. C'est le Seigneur qui donne toutes ces choses. Et aujourd'hui, peut-être vous dites, j'ai pas de don moi. Lui, il a un don, regarde, il fait ça dans l'église. Moi, j'ai pas de don. J'ai pas de capacité. Je suis bon à rien. T'es bon à rien, tant mieux. Parce qu'avec le Seigneur, on est bon à tout. Ça, c'était un frère que j'avais un gros problème avec lui, le pauvre. Il se croyait bon à rien. Pourquoi? Parce que son père lui avait dit pendant des années, t'es bon à rien. Et lui, il avait cru. Les dégâts de l'enseignement, les dégâts de l'éducation. Les parents ne se rendent pas compte des mots qu'ils disent. Et un jour, il me disait toujours, je ne vois rien, Robert, je ne vois rien, je ne peux rien faire. Même, je ne pourrais pas faire des études, je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas avoir des enfants. Je demandais à ma femme, il me cassait la tête, je n'en pouvais plus. 2 heures au téléphone. Et moi, j'essayais d'encourager, mais il en main. Puis un jour, je ne sais pas, je dis, bon, tu es bon à rien? Et bien, je vais te dire une chose, c'est très bien. Je suis content que tu sois bon à rien. Parce qu'avec le Seigneur, tu vas être bon à tout. Effectivement, c'est un des frères qui mettent le plus dans l'église, il est marié, il a des enfants. Par contre, la qualité numéro un pour pouvoir servir, c'est la disponibilité. Seigneur, je veux te servir. Mais alors, pas ce soir, parce qu'il y a... j'irai pas à l'étude biblique, parce que j'ai un truc à la téloche. Ça, j'irai pas à la réunion de prière, parce que c'est là les premiers dons. Mais si vous n'êtes pas aux réunions de prière, pas aux études bibliques, bah, comment voulez-vous être disponible pour le Seigneur? Généralement, les églises de dimanche matin, partout où je vais, hein, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, hein, c'est plein. C'est plein. L'après-midi, comme cet après-midi, 50% moins. Ça veut dire quoi, ça? Le dimanche est entièrement consacré au Seigneur. C'est pas parce que je vais parler. Parce que le dimanche, c'est pour le Seigneur. Alors, bien sûr qu'il y a tellement de choses à faire. Surtout quand on a des enfants. Mais mettez du temps à part pour le Seigneur. Je vous promets qu'il vous donnera du temps pour faire des choses. Le Seigneur, écoutez bien ça, le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Ça a été un principe de vie qu'on a eu avec mon épouse. Il m'a ordonné, entre guillemets, je dirais, il m'a demandé de faire ceci, cela, pas un ordre, mais il a toujours donné ce qui était nécessaire. C'est pas mon problème, c'est le sien. Quand la maison est devenue trop petite, qu'il fallait trouver un endroit pour se loger, j'ai dit, Seigneur, tu t'engages dans l'épître aux Éphésiens que l'homme doit s'occuper de son épouse. Seigneur, nous comptons sur toi. L'audace de la foi. Moi, je suis un gamin à côté de Georges Müller. Et le Seigneur a donné. Et c'est merveilleux. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Privilégiez les instants merveilleux que nous pouvons avoir dans l'église, études bibliques, réunions de prière. Et je suis persuadé que là, il vous donnera des responsabilités dans l'église. C'est évident. Parce que vous allez comprendre dans la prière les besoins de l'église. Et puis, au niveau d'études bibliques, vous allez connaître les désirs du Seigneur pour vous. Et vous, un jour, vous serez comme Samuel, le petit Samuel. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et là, le Seigneur, vous inquiétez pas, il va vous utiliser. Parce qu'il le veut, c'est son désir le plus cher, c'est se servir de vous. Alors, la plénitude de l'Esprit, j'en ai dit un mot tout à l'heure, hein. L'Esprit de Dieu ne quitte jamais le croyant. Vous êtes scellés une fois pour toutes. Mais la vie de l'Esprit peut être limitée, neutralisée, j'en ai dit un mot. Il peut être attristé, voire même pratiquement éteint. Vous vous rendez compte? Éteint. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit. Quelle responsabilité! Dieu chérit le Saint-Esprit, comme il chérit le Fils. Et on a vu hier dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit que cette église où Paul a résidé pendant un an et demi, et on disait Thessalonique 3 semaines. Quand vous voyez les fruits du travail de Paul à Thessalonique, quand il leur dit « En ce qui concerne l'amour fraternel, je n'ai plus rien à vous enseigner. » J'aimerais que le Seigneur nous dise ça dans votre église, dans la mienne, hein. Un an et demi à Corinthe, il dit « J'ai mis le bon dépôt, mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. » Et le Saint-Esprit veut nous faire bâtir avec des pierres précieuses, avec des choses nobles. Et quand ce n'est pas le Saint-Esprit, je compte se construire avec quoi? La paille, du foin, du chaume. Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons? C'est pas spirituel, mais c'est une réalité. Et ça risque aussi d'être notre réalité quand on sera au poids du Seigneur. Mais t'as bâti avec quoi, moi? Qu'est-ce que tu crois que t'as bâti, là? Donc le Saint-Esprit, et donc dans ce cas-là, il faut confesser notre péché, demander pardon à Dieu d'avoir négligé l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et nous purifier. Donc, il est nécessaire que le Saint-Esprit en nous ait une possibilité totale, absolue, d'intervenir. Ne priez jamais pour que le Saint-Esprit vienne. Il est déjà là. Amen. C'est une fausse prière, ça, qu'on entend. Seigneur, envoie-nous ton esprit. Il est déjà là. C'est pas envoie-nous ton esprit qu'il faut prier. C'est Seigneur, fais que ton esprit en moi c'est fasse tout ce qu'il veut. Amen. Merci Père pour ta parole. Sans elle, nous serions complètement perdus, mais ta parole est claire, elle est juste, elle est divine, elle vient de toi. Elle n'est pas là pour nous tromper, elle est là pour nous encourager, elle est là pour nous montrer la vérité. Seigneur, c'est si beau de pouvoir connaître ta parole et de pouvoir dire, comme Paul, « Je sais en qui je crois ». Pardonne-nous, Seigneur, le fait que nous n'aimions pas ta parole au-delà de ce que ça devrait être. Donne-nous d'être participants au travers des études bibliques, au travers de lecture de ta Bible, de ta parole. Fais, Seigneur, que ton esprit en nous soit libre, totalement libre. Oh Père, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous les moments où le Saint-Esprit en nous n'est pas tellement à l'aise. Il est presque éteint, et pourtant il est là. Oh Père, donne-nous de construire vaillamment pour toi. Et donne-nous, Seigneur, cette joie qui vient de toi, que nous pouvons aussi te rendre, et qui fait que la vie chrétienne devient quelque chose de merveilleux, parce que ça vient de toi. Bénis mes bien-aimés ici, Seigneur. Que ta bonne main soit sur chacun. Que la bonne main soit sur l'Église. Tu veux les bénir. Tu veux tous nous bénir. Mais Seigneur, est-ce que nous sommes dans les bonnes dispositions pour être bénis par toi? Tout est là, Seigneur. Donne-nous l'intelligence d'être là où il faut, comme il faut, pour recevoir de toi l'entière bénédiction que tu veux nous donner. Père, je t'aime tellement. Je suis tellement fier de toi. Tu es tellement merveilleux. Que ton nom soit béni. Amen. Donc cet après-midi, si vous êtes là, on verra le dernier aspect. Donc parmi les dons, celui qui est le plus difficile à comprendre, c'est donc le don de la glossolalie, et on en parlera ensemble.